Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
En remplacement de Mère Ordinaire, à l'animation, Anaïs Gertin-Lacroix.
Mère Ordinaire.
Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et Anaïs qui s'installe, merci de passer la prochaine heure avec nous dans Mère Ordinaire. Le retour du sunshine. Du soleil, ça fait du bien. Allô, Geneviève Peterson.
Salut.
Salut. Ben là, on te connaît ici à Cube, mais moi, je voulais qu'on jase à la mère, la femme.
On jase de moi?
On jase de toi.
J'adore ça, mon sujet préféré. Rare, hein? Pas si rare, j'arrête pas de profiter de mon émission pour faire plein d'anecdotes. Je suis très égocentrée. Fait que je suis vraiment contente. Yes, enfin.
Ben, écoute, on t'offre un autre 18 minutes pour te mettre de l'avant. C'est solide, hein, quand même.
C'est extraordinaire.
Et là, avant de rentrer en onde, il y a quelques secondes, les deux, on jasait un peu là, des terrasses. Là, on est à Montréal, chacune de notre côté. Faut aménager la terrasse à cette période-ci de l'année parce que, mine de rien, l'été va finir par arriver.
J'ai des doutes, quand même.
En tant qu'ancienne Miss Météo, je te le confirme. Mais
ça finit indubitablement par être là.
C'est fouin. Mais tu sais, maintenant, on s'entend que l'été commence au mois de septembre. Ça va jusqu'à Noël.
J'ai encore mes pneus d'hiver.
Mais non, mais ça, c'est pas bien, là.
Je le sais. Je le sais, je les use prématurément.
Tu vis dans le déni?
Je vis dans le déni.
C'est pas ton chum qui s'en... Moi, c'est mon chum. On a vraiment là, chacun des tâches, là, et les pneus, la voiture, tout le kit, c'est Jean-Philippe all the way, parce que la seule fois que je devais m'en occuper, j'ai roulé sur les pneus d'hiver.
Non, c'est pas mon chum. Moi, j'habite tout seul, donc mon chum s'occupe, il s'occupe pas de ces choses-là. Il s'occupe de bien d'autres affaires, mais pas de mes vidanges, ni du pelletage, ni de mes pneus. Malheureusement, ce sera un garagiste.
Donc, tu t'occupes toi-même de tes vidanges.
Une vraie féministe.
T'es tellement 2.0.
Ah, j'aille bien ça. Sérieusement, là, si je pouvais déléguer les vidanges, là, c'est... Je le ferai. Puis là, je m'excuse pour ceux qui sont peut-être déjà en train de dîner, là, mais tu sais, l'été, les petits maudits verres blancs te font
non,
couvert,
non,
c'est
non,
impossible.
Non, ça, c'est intolérable. Là.
Impossible. Impossible.
Mais tu vois, moi, j'oublie encore à ce jour les. C'est quand? C'est mes voisins, là. Je me fie vraiment sur
moi,
mes
c'est mes voisins.
Voisins
pour l'étiquette. Ils viennent cogner à ma porte pour me dire « Madame Peterson, il faudrait que vous déplaciez votre voiture. »
Mais t'as donc bien des bons voisins, ils déménagent pas.
Je le sais, ils sont extraordinaires.
Là, Geneviève, OK. 3 enfants.
Oui.
C'est important de le dire. T'habites pas avec ton chum.
Non.
Vous êtes encore super 2.0. Là, tu t'entraînes des godots.
Oui, des godots dans ma salle de bain.
Comment tu trouves ton équilibre, là, tout ça, dans tout ça?
Ben, je le trouve pas. J'en ai aucun. Tu sais, la devise de ma vie, ça devrait être du chaos naissent les étoiles.
OK. Ah,
mais moi, je suis bien dans le chaos. Ben, c'est Nietzsche, c'est pas moi, là. Je suis pas si intelligente que ça. Mais moi, je suis bien dans cette espèce de... Moi, je suis enfant unique, okay? Puis j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de silence. Évidemment, j'étais toute seule pour jouer, j'avais pas d'amis. Fait qu'on dirait, si je peux faire ma psychanalyse à deux balles en deux minutes, que j'ai besoin de bruit, de m'entourer. J'ai besoin de chaos pour être grounded, justement, pour créer, pour faire mes affaires, pour réussir à animer chaque jour, à gérer tout ça. Puis quand, parce que j'ai mes enfants en garde partagée, bien évidemment, et quand ils s'en vont, c'est un énorme soulagement, de guillemets, parce que bon, c'est un moment pour moi, pas que je suis contente de les voir partir.
Non, mais t'es pas une mauvaise mère, mais tout le monde dans la vie, tant les pères, les mères, que t'aies des enfants, non, on a besoin d'avoir un moment pour soi. Je veux dire, ça fait partie de la vie.
Oui, mais ils s'en vont.
C'est bien correct.
C'est ça. Puis là, c'est un soulagement. Je fais ouf, enfin du silence, mais au bout d'une heure, je trouve le temps long. Fait que je fais plein d'affaires. Je suis vraiment hyperactive. Vraiment, vraiment.
Donc, t'es pas capable de rester chez toi, tranquille, regarder le gazon pousser.
Je suis capable de rester chez moi puis de binge-watcher vraiment trop d'émissions sur Netflix. Mais habituellement, je fais autre chose en même temps. Je suis sur mon téléphone. Je suis très multitask, comme nous toutes, je pense. Là, évidemment, c'est un trait bien féminin. mais c'est ça. Donc, je pense que je suis bien dans ce chaos-là. C'est moi.
Tes enfants, est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir, mettons, quand ils font leurs devoirs? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de... Moi, quand même, quand j'étais jeune, c'était la télévision, la famille. J'aimais ça être dans la cuisine, tu sais, travailler. Le plus qu'il y avait de son, un peu comme toi, mieux j'arrivais à me concentrer encore à ce jour, dans un café, là, tu sais, quand ça jase fort autour, je me concentre 20 fois mieux.
Ben, pas
que
moi.
Si je suis chez moi, pas de son, là, je vais être folle.
C'est là tout mon paradoxe. Je peux pas travailler quand il y a du bruit. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Je dois. Oui, j'ai de la misère même à écouter de la musique quand j'écris. Quand j'écris soit mes livres ou des scénarios, il faut vraiment que je sois dans le silence ou que je mette de la musique qui n'a pas de parole. Genre.
Mélodie, là.
De la musique classique la plupart du temps ou de la. Je sais pas. Quelque chose d'assez immersif. Mais mes enfants, ils sont très différents. Puis, tu sais, je me dis tout le temps. Avant de devenir mère, je me disais, bon, ben, tu sais, dans le fond, nos enfants, ils sont comme on les forge, ils sont tributaires de l'éducation qu'on va leur donner, mais c'est pas vrai.
Ils naissent avec leur ADN.
C'est pas une page blanche, ta petite bébite-là. Ils ont leurs caractéristiques, ils ont leur tempérament. Mes deux filles sont très différentes. Là. Ma plus vieille a 12 ans. Elle, là, c'est Miss à ses affaires. Sa chambre est rangée de façon militaire. Elle gagne le mériteur de la fille qui suit les consignes. Tout le contraire de sa mère. Vraiment, je me demande où je l'ai prise.
Son père, est-ce qu'il est comme ça?
Ouais, son père est un peu plus monsieur règlement, mais encore là, non, c'est ça. Puis celle du milieu, là, elle, c'est moi. Là, elle, c'est le chaos, c'est le bordel dans sa chambre. Elle fait mille choses en même temps. Son sac d'école est un champ de bataille. Les étuis sont ouvertes, les plats sont vidés dans la boîte à lunch. C'est n'importe quoi. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je fais juste la chicaner. Oui, c'est ça.
Il n'y a rien à faire sauf la chicaner.
Mon fils est un mélange des deux. Donc,
quel âge ton gars?
Il a 4 ans.
4 ans, celle du centre.
9 ans.
9 ans
donc,
et 12 ans.
4, 9 et 12 ans. Donc, j'ai tout le spectre de l'enfance chez nous.
Ouais, toi.
J'ai toutes les étapes. Puis là, ma fille rentre au secondaire l'année prochaine. Et je dois dire que je capote, mais pas dans le mauvais sens. Non, je suis vraiment contente. Parce que ça va être les plus belles années de sa vie. Puis je trouve que notre relation ensemble est vraiment le fun.
Mais toi, tu parlais l'autre fois dans la station que tu voulais voyager avec ta fille, ta fille grande. Tu l'as fait, là, mais je me souviens...
Moi, j'ai promis des affaires. Là. Je le regrette.
Ah, oh, t'es le genre de mère comme ça, tu promets plein de choses.
J'ai promis à mes enfants qu'à leurs 14 ans, j'allais faire le voyage de leur choix.
OK, mais c'est ça de bord que tu disais l'autre fois.
Oui, c'est ça que je disais. Donc,
puis finalement, ça...
Attends. Ma plus vieille a choisi la France. OK, pas pire. J'ai encore 2 ans pour ramasser mon argent. Mais celle de Levent a choisi la Chine.
Elle a du goût?
Ben, c'est pas que j'aime pas ça, la Chine. J'ai vraiment envie d'y aller, mais c'est pas nécessairement la même implication qu'aller passer une semaine à Paris. T'sais.
Avec une enfant en plus, non.
Fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'en ai aucune idée.
Ben, écoute, tu te restes quelques années pour rire.
Ben, pas tant. Hey, ça passe vite.
Je le sais. Albert a eu 1 an samedi dernier. Puis moi, ça me tapait ses nerfs quand j'étais en ballon. Tu sais, tout le monde, ça passe vite.
Profite-en.
Puis oui, je le disais, ça me tape ses nerfs. Puis... Veux pas, samedi passé, à Mané, je regarde mon gars avec mon chum. J'ai pas le choix de l'avouer. C'est vrai que ça passe vite. Puis il y a juste 1 an, là, mais je capote. Moi, depuis 1 an, j'ai pas changé tant que ça. Là.
Mané, lui, tu vas cligner des yeux, puis il va être en maternelle. Ah. C'est ça qui va se passer.
Ben,
tu vas être la mère
qui pleure dans cligner des yeux, puis qu'il n'y a plus de couches et de merde. Là, je dirais que j'aimerais ça.
Je comprends.
Ça, c'est...
Moi, la petite enfant, j'aille bien ça. J'haïs être enceinte. J'haïs tout ça.
Moi, j'ai vraiment pas aimé être enceinte.
Ah non, c'est la pire chose au monde.
C'est super mal vu de. Moi, je le disais les médias sociaux, mais tu sais, j'ai vomi du début à la fin. Le vin me manquait. J'avais hâte de manger du tartare. J'ai pas trippé.
Moi, j'aimais pas ça prendre 60 livres non plus. Là. J'aimais vraiment
moi,
pas ça.
Moi, ça a pas été si mal.
Moi, c'était l'apocalypse.
Étrangement, puis j'avais vraiment peur parce que, tu sais, tout le monde le sait, moi, je travaille pour Aneb, entre autres, je suis ambassadrice, puis vu que j'ai déjà souffert de troubles alimentaires, j'avais vraiment peur. Tu sais, je me disais, je vais-tu retomber là-dedans?
Mais moi aussi. Mais moi, ça a fait le contraire. J'étais boulimique.
Enceinte?
Ouais, je me disais, ouais, moi je suis dysmorphique puis j'ai des troubles alimentaires. Moi aussi, mon Dieu, on a tous des troubles alimentaires dans les médias, ça va pas bien. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on aurait dit que quand j'étais enceinte, c'était comme une passe gratuite.
Tu pouvais manger.
Je me disais, hey, là, j'ai le droit de manger ce que je veux. Mm-hmm. Puis là, ben, ça avait, écoute, là, j'avais des tripes de Joe Louis. Des Joe Louis. Vachon.
Ben, moi, c'était des beignes aux patates.
Ben ça, c'est pas...
J'allais jusqu'à Mirabelle.
C'est pas très régime, là.
Ben, c'est vraiment pas régime. Non, mais enceinte, on se gâte, là. Mais il y a ça aussi. Parce que il y en a qui disent, gâte-toi, t'es enceinte, c'est le temps de manger ce que tu veux.
Ben, pas tant que ça.
D'un autre côté, il y en a qui disent, hey, fais attention, parce que quand tu vas accoucher, tu vas le regretter. Fait qu'encore là, il y a deux discours. Moi, je te parle beaucoup d'Instagram, parce que, tu sais, ce que je mettais, il y avait toujours, là, des choses complètement différentes. Là, des filles qui m'écrivaient, attention, tu vas engraisser. L'autre qui me disait, profite-en, c'est le temps. Fait que, tu sais, c'est vraiment difficile. Moi, je trouve, se trouver là-dedans, puis j'ai pas aimé ça. Moi, je m'ennuie de prendre un verre de vin, puis ça a l'air alcoolique de dire ça, tu sais, que ça me manquait, puis ça me faisait un peu chier d'aller dans une soirée
pas, là,
sans prendre un... Ben, c'est parce qu'il y a plein de mères autour de moi, tu sais, qui ont
que les
adoré
gens
être enceintes.
Oh, mais
là.
Ils sont lourds d'eux autres.
Tu sais, qui me disaient, tu vas voir, tu vas t'ennuyer de ta bédaine, puis...
C'est-tu les mères qui font du crab cooking? Ça doit être ces mères-là. Je pense que c'est ceux-là. Moi, je pense qu'on capote avec le buvage de vin puis le mangeage de sushi puis de tartare. Là.
Ouais, ou le fromage. Ou,
Moi, j'ai tout fait ça.
Moi, j'ai pris un verre de vin, peut-être un semaine, un petit verre de vin.
À la fin. Vers la fin. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est pas conseillé dans le temps où le fœtus est en formation, mais à la fin, quand il est complètement formé, en tout cas, moi, ma sage-femme m'avait dit, parce que je suis une mère grano, oui, je vous l'annonce, une mère grano qui accouche chez elle, toi, chose.
T'as fait ça. Mais là, c'est le retour.
Avec des sages-femmes.
Hein? Mais c'est le retour de cette mode-là. Moi, j'ai deux, trois personnes dans mon entourage qui ont accouché dans une maison de naissance
Pourquoi
ou directement à la maison.
Pourquoi? Ben parce que accoucher à l'hôpital, c'est pas si le fun que ça.
Ben, moi, j'ai adoré. Ça a pris 2 heures.
Mais chanceuse, t'es chanceuse. Moi, ma fille, ma deuxième, j'ai accouché chez nous, ça a pris 2 heures, mais ma première, ça a pris 38 heures. Et là, attention, je veux pas dire qu'accoucher à l'hôpital, c'est pas la bonne chose à faire. Évidemment, pour accoucher à la maison ou en maison de naissance, il faut qu'il y ait un paquet de paramètres. Faut pas que tu sois une grossesse à risque. Faut que tu sois très bien suivie. Et je veux rappeler à tout le monde que les sages-femmes ont 4 ans d'obstétrique à l'Université de Trois-Rivières. Donc, ont plus de formation qu'un médecin généraliste en obstétrique. Donc, c'est pas des sorcières qui te garochent un chaud sur le vagin, là. C'est pas ça, là. Ils sont équipés pour intuber la mère et l'enfant. Tu sais, je veux dire, c'est jusque-là qu'elles peuvent aller. Et quand t'accouches chez toi, il y a une ambulance qui est prête si jamais il y a besoin d'un transfert. Donc, parce que quand on dit ça, ça fait bien peur. Les gens, ils ont en tête les filles de Caleb.
Mais on voit vraiment ça avec la chandelle.
C'est pas ça, là. C'est zéro ça, là. Tu sais, moi, gars, je le sais, je vous le dis, là, j'ai vécu les deux. J'ai accouché chez nous puis à l'hôpital. Puis à part le fait que j'étais dans ma chambre chez nous, il n'y en avait pas vraiment de différence. C'était les mêmes instruments, les mêmes affaires. Si ce n'est que l'approche était beaucoup plus adaptée à moi, à ce que je voulais, c'était humain. Tu sais, il n'y avait pas de quota.
Mais attends, accoucher la deuxième fois chez toi.
La troisième aussi.
Troisième, OK.
Mais première à l'hôpital Saint-Luc. Ça a pris 30
ans. Pour le premier,
j'aurais
eu Albert, il y en a qui le font et je le respecte. Et écoute, c'est tellement personnel. Là.
Mais,
mais pour le premier, on dirait que j'avais besoin, moi, d'être à l'hôpital. Mais je ne suis pas fermée si jamais. Là, je ne sais même pas si je veux un deuxième enfant. C'est la question qu'on se fait poser aussitôt que tu as accouché. T'en veux-tu un autre? Je ne sais pas. Présentement, Albert, il y a un an, je commence à revivre. Je retrouve mon corps. Ça. Il dort. Il ne me fait même pas encore ses nuits. Là, fait que j'ai vraiment pas envie
de tomber. T'es loin de penser au deuxième.
Exactement. T'as peine si je fais l'amour au colibine tellement qu'on ne dort pas. T'es tabou. Tu fais juste chercher le sommeil.
Mon but, ce premier, c'est de dormir.
De dormir, c'est la base, là.
Vraiment. Puis quand tu dors, après, ben, ta libido peut revenir.
Ouais, mais quand tu dors, c'est le nerf de la guerre. C'est très difficile. Pour vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tough, le manque de sommeil. Puis, c'est ça. Peut-être que pour le deuxième, je sois adoptée ou accouchée chez nous, j'haïrais pas ça. Tu sais, il y a comme peut-être un côté plus humain.
Non, c'est pour vrai, c'est une expérience, je vais pas dire plaisante, parce qu'évidemment, quand qui dit accouchement à la maison, dit pas de l'épidural, mais c'est une douleur qui se gère très bien, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr, ça fait mal, t'as l'impression que le corps va te fendre en deux, puis tu vas chier un melon d'eau, là. Ça,
Sauf
que, à l'hôpital, ma seule pensée était tournée vers ça. Quand est-ce que je vais la voir? Pique-moi là dans les yeux. J'en voulais tellement, là, je suis rentrée à l'hôpital avec cette idée-là de la voir. Mais quand t'es chez toi, elle n'est pas là. Tu le sais que tu ne l'auras pas.
Fait que t'es
moins focusé. Je dis pas que ça fait moins mal. Ça fait très, très mal. On va pas se compter de peur. Mais on dirait que tu approches la douleur avec une attitude différente. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut accepter la douleur puis que souffrir, c'est mieux puis que tu accouches plus pour vrai chez vous. Là. Pas en tout. Là. Ceux-là qui veulent l'épidurale puis accoucher à l'hôpital, là, allez-y.
Moi, c'est ça, Aline. Puis
pas
je
de problème.
Fois 20 000, l'épidurale.
Mais
il y a
d'autres options.
Est-ce que tu as allaité?
J'ai allaité tellement. Pis c'est pour ça que j'ai eu une réduction maman puis un lift des boules. Parce que j'avais les tontons en pente de ski à la fin. Ça avait aucun sens. Moi, je suis pas une fille très corpulente dans la vie. Je suis assez mince, mais mes seins ont expand avec usage. Je dirais, tu comprends?
Et moi, tu vois, j'espérais tellement que ça reste parce que j'ai pas de poitrine. Puis la montée de lait, là, je me regardais dans le miroir.
Tu trouvais
J'ai pris des photos.
Je sais.
Je les avais jusqu'au menton.
Oui.
Ça t'a fait un mois et demi.
On dirait
un
épisode de Nip/Tuck qui passe jamais. C'est ça.
Genre parfait.
Mais non. Mais moi, ça a resté. Il y a des filles malchanceuses comme moi. C'est mon chirurgien qui m'expliquait ça. Le tissu mammaire, quand t'allaites et tout ça, les tissus d'allaitement se décupent et ça revient. Mais il y en a que ça revient pas. Puis moi, ça revenait pas. Fait que j'avais 27 de taille puis double G de toton.
Eh ben,
ça fait 3 fois que je dis toton, c'est épouvantable. Ma mère va m'écrire. Mais j'avais des très gros joes, OK? Et là, meilleure décision de ma vie, c'était de me faire une réduction mammaire puis un lift. Et j'ai retrouvé une poitrine comme si j'avais 17 ans.
Oh mon Dieu, je suis jalouse.
Va bien. Je regarde tes seins. Je regarde tes seins, tout le monde en ce moment, tout va bien.
Ça se fait quand même bien, effectivement.
Mais t'as pas des. Tu sais, c'est ça, moi, j'avais des énormes seins, je fais beaucoup de sport. Tu sais, c'était rendu invalidant. Ouais. J'avais des maux de dos, là. Tu sais, je niaise puis je ris puis je dis Joe. Mais pour vrai, là, la première fois que je suis allée magasiner, j'ai pleuré, là. C'est parce que tellement
je ne pourrais jamais comprendre cette situation.
Non, mais je pleurais parce que je réalisais à quel point je portais rien puis que c'était un handicap pour moi puis que ça prenait beaucoup de place.
Mais là, t'as une belle poitrine, je confirme.
J'ai une excellente poitrine.
Mais tu vois, allaitement, moi, ce qui m'a vraiment fait capoter, puis c'est pas contre Sainte-Justine en soi. Tu sais, moi, je voulais allaiter, puis je suis chanceuse, ça a fonctionné. Parce qu'il y en a pour qui, tu sais, ont vraiment de la difficulté, là. Là, j'avais Albert, tu sais, sur le...
Sur le plugué,
là, ouais, sur le Népal. Et une des infirmières est venue me voir. Là, il m'a apporté des feuilles de chou parce que la montée de lait, j'avais vraiment mal au sein. Puis elle me dit, tu peux mettre le chou sur ton sein, mais tu dois pas le mettre sur l'auréole, ouais, sur le mamelon, tu sais. C'est OK. Pourquoi y a-tu des vertus? Et elle me regarde vraiment, puis elle dit, parce qu'à partir de maintenant, ton sein t'appartient, mais mamelon est à bébé.
Oh mon Dieu. Oh non, ça, là.
Là, ça fait même pas 24 heures que j'ai accouché. Oh, moi, je commence à apprendre
à allaiter. C'est une mafia de l'allaitement, là, ça me gosse.
Et là, mon chum, là, il me regarde, on se regarde. Je regarde l'infirmière. Excuse-moi, est-ce que... J'avais de la misère à faire de même. Viens-tu de me dire que mon mamelon appartient à bébé?
L'infirmière me dit
ça, je ne peux pas mettre de feuilles de chou sur mon sein ou je dois en mettre en périphérie du mamelon. Puis elle a répété, elle a dit oui, à partir de maintenant, c'est pas toi qui dois décider ce que tu fais avec ton mamelon, c'est à bébé. Je te dis non, ça, rendu là, je décroche.
J'oublierai jamais l'infirmière qui me dit, parce que j'étais pas capable d'allaiter à l'hôpital, que je devais saisir mon sein comme si c'était un hamburger.
Oui, ben oui, c'est...
C'est une très bonne technique, mais ça m'avait beaucoup
fait rire. Mais la technique du hamburger, ça fonctionne au bout.
Mais il y a
beaucoup
de pression sur l'allaitement. T'es pas d'accord? Parce que moi, j'ai allaité ma fille 2 ans, ma deuxième fille un an et demi, puis mon fils...
2 ans, t'es folle!
Non, j'étais pas folle. Non, non, j'étais sous l'emprise, là, ma fille, l'allaitement. Vraiment, je me sentais tellement... Mais non, mais écoute, l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça qu'ils recommandent. Les infirmières, le plus longtemps possible, c'est ça qu'ils recommandent. Fait qu'un mané, même
oui,
si ça me tentait plus, je le faisais
sais,
quand
mais
même.
La femme a besoin aussi à mané de retrouver son corps. Et, tant mieux, là, t'étais bonne 2 ans.
Je suis pas bonne, j'ai fait une dépression. J'étais plus capable. Je voulais me retourner chez nous. À ma deuxième, j'ai appelé ma boss en panique parce que j'avais pris un congé de maternité d'un mois. Et au bout de 7 mois, je suis allée au Jean Coutu. Écoutez bien ce qui s'est passé. Je m'en vais au Jean Coutu et là, j'étais toute seule. Mon chum travaillait, j'étais en congé de maternité. Je suis devant l'étalage des produits ménagers. OK? Et là, je regarde, puis il y a une nouvelle affaire qui sort. C'est le RTL au thé vert. Et là, j'ai pogné de quoi. J'ai ressenti une joie. J'ai fait, ah, c'est bien le fun. Du RTL au thé vert, je vais pouvoir faire mon ménage. Et là, j'ai fait, hé là, là, ça va pas bien. J'ai appelé ma boss, j'ai dit, je rentre demain. C'est comme ça que ça s'est passé.
Mais non, mais je te crois tellement.
J'étais là, je vais pas devenir cette fille-là, c'est pas vrai. Puis mon fils, je l'ai allaité seulement 6 mois, puis après, ça a été fini. Mais tout ça pour dire que, tu sais, faire des pressions d'un côté comme de l'autre, parce que nos mères en ont eu des pressions, mm-hmm, pour donner le biberon dans les années 70.
Ah oui, c'est la
80,
grosse mode, le biberon.
C'était,
là,
c'était vraiment une grosse épaisse granola et puis si tu donnais le sein.
Oui, tu vois, ma mère, elle m'a allaité, puis elle me dit, Anaïs, on t'a allaité pour la seule raison qu'on n'avait pas assez d'argent.
C'est ça, il était
pour
pauvre.
Acheter le lait qui coûtait cher. Donc, elle dit, c'est pour ça que je t'ai allaité, parce que sinon, autour d'elle, c'était le biberon, puis justement, c'était la grosse mode, le biberon. Puis
ben,
nous,
le biberon,
c'est le
comme
contraire, là.
Liberté.
À l'hôpital, si tu demandes un biberon, on te dit non.
On a appelé la psychiatre. À mon amie, parce qu'elle elle a dit, pour des raisons personnelles, elle ne désirait pas allaiter et on a fait venir le psychiatre pour savoir c'était quoi l'affaire. Je veux dire, à un moment donné, lâchez-moi. Je veux dire, je pense qu'on est capable de décider, on n'est pas des épaisses, là.
Non, mais il y a des établissements, toutefois, qui assument totalement prôner, comme à Sainte-Justine.
Mais
oui, mais il y a des affiches, là, dans le corridor, là, disant ici, à Sainte-Justine, nous, on fait la promotion de l'allaitement.
Non, mais ça va, l'allaitement.
Oui,
mais ça va. C'est-à-dire, la recherche démontre quand même que l'allaitement, c'est la meilleure chose pour le bébé.
Mais
on peut-tu se calmer?
Ou si ça ne fonctionne pas?
Mais ça,
moi, j'ai des amis qui ont fait des dépressions. Là. Elles voulaient tellement allaiter. Puis là, l'infirmière, là, elle était presque à saigner des mamelons. Là, on va essayer. Oh, à Mané, ça se peut aussi que ça ne marche pas. Puis abandonne.
Ça peut briser les liens entre la mère et son enfant parce que tu deviens à bout.
Mais t'es à bout, c'est sûr.
Oui.
Ah, hey, hein, tu te demandais, on allait jaser de quoi? On a fini.
On a fini de jaser. Hey, fait que c'est quoi la conclusion de cette affaire-là? C'est faites ce que vous voulez avec vos boules.
Ah, oui, avec votre corps. Moi, je dirais votre corps.
En général.
Pas juste les boules.
J'avais juste envie de redire le mot boule.
OK, dizaine de rien faire avant la pause.
Boule.
Mère ordinaire.
Pour nous rejoindre en studio,
appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Parlons maintenant musique, parlons cinéma avec Stéphane Plante. Hello.
Bonjour.
Mais t'es tellement thématique, le chandail bleu, oui, le micro bleu, la gourde bleue, t'es
oui, c'est aux couleurs
un
de
vrai
cube.
De vrai.
Couleur de cube aujourd'hui. Hein, personne de plus corporate que moi.
Il s'en est presque fatigant. Ouais. As-tu des bas bleus?
Ouais, c'est pas le bon bleu, par exemple.
OK, OK. Je te demanderais d'aller changer.
J'ai pris du temps pour regarder. Tu te rends compte comment j'ai une mémoire pour des choses de la musique, mais les choses du quotidien, c'est plus difficile.
Ah, mon Dieu, je te comprends à 100%. Rocketman, oui. Là, t'es allé voir le film ce week-end.
Sur la vie d'Elton John.
J'ai tellement hâte de voir ce film-là. Les commentaires, les critiques ne sont que positives. Puis, toi, comment t'as trouvé ça?
Ben moi, je l'attendais avec une brique, un fanal le film, parce qu'il y en a eu beaucoup cette année, hein, des biopics, là, comme des films biographiques de musique. Et là, je voyais la réaction à Cannes, puis Elton John lui-même, il a pleuré quand il a vu le film, il a revu sa vie un peu. Là, je me disais, c'est trop gros, peut-être je vais attendre, je vais le voir, je vais me faire mon idée. Moi qui n'ai pas le plus grand fan d'Elton John, et j'ai passé un très bon moment.
Mais attends, je te pose la question, pas mal tout le monde, je pense, a vu le film The Doors.
Oui.
Sur la vie de Jim Morrison, Le Roi Lézard. Toi, est-ce que tu l'as aimé? Mettons, juste pour me situer, ce film-là, est-ce que tu trouvais que c'était bon? Est-ce que ça représentait la vie de Jim Morrison? Ou t'as été un peu déçu? Ça, c'est un film, quoi, c'est en quelle année?
91.
Mon Dieu, t'es solide.
Oui,
Il n'y a même pas regardé nulle part, bravo.
Ben, oui, j'aimais ça. Même que j'aimais ça plus que le groupe lui-même, les Doors. J'ai trouvé que le travail d'Oliver Stone était quand même intéressant dans le côté poétique là, de Jim Morrison et tout ça. Il ne faut pas rechercher l'authenticité, de dire hey, « As-tu vécu ça à telle date? C'est-tu vrai? Y a-tu des anachronismes? » C'était vraiment l'esprit, la poésie, la spiritualité de Jim Morrison.
Mais je trouvais qu'il était quand même réussi, ce film-là.
Moi aussi.
Comparativement à celui sur Kurt Cobain de Gus Van Sant, qui était vraiment nul. Il y a une scène, je pense, de 15 minutes de Kurt Cobain qui est assis, qui regarde dans le vide, là, puis c'est interminable.
The Last Day, c'est ça?
The Last Day, exactement.
Et je n'ai pas vu.
Ben écoute, écoute-le pas. Écoute-le
tu me donnes tellement le goût.
C'est pas bon. Donc, c'est pour ça. T'sais, y en a qui sont réussis, il y en a qui le sont un peu moins. Et à ton sens, à toi, ben c'est réussi Rocketman.
Oh oui, c'est même les gens qui n'aiment pas Elton John. Mais si vous aimez le genre biopic, allez voir ça. Parce que ce qu'on reproche souvent aux biopics, c'est les anachronismes. On dit, tel fait, c'est pas arrivé et tout ça. Mais dès les premières minutes, Rocketman nous montre qu'on s'en fout. C'est une trame narrative un peu calquée sur les comédies musicales, mais totalement éclatée. C'est en fait, la trame de base, c'est clinique de désintox où Elton John va se confier avec son costume de scène comme s'il avait refusé d'aller au Madison Square Garden et plutôt que faire son gros spectacle, il va se confier à des gens qu'il ne connaît pas. Et là, le récit de sa vie embarque. Mais tout ça se fait de façon très fluide avec des chansons d'Elton John, des chansons où les personnages se répondent. Et d'ailleurs, c'est l'acteur Taron Egerton lui-même qui chante les parties d'Elton John. C'est pas à la perfection. Les gens qui aiment vraiment Elton John vont trouver des différences. Mais il faut comprendre que c'est souvent sous forme de dialogue. Ils reprennent les chansons d'Elton John, mais pour les adapter au dialogue du film. Mais tout ça se fait sans vraiment...
Mais là, c'est pas une comédie musicale, là, ça se
ben, c'est un peu ça, oui. Hein? Mais ça s'embarque tellement bien. Moi, souvent, les comédies musicales, ce que j'aime pas, c'est OK, quand une chanson embarque, il y a trop une brisure.
Moi, je suis pas capable. Là. J'ai essayé d'écouter.
J'ai de la difficulté aussi, je t'avoue.
Hollywood, mon Dieu, avait gagné un Oscar d'ailleurs. En tout cas, bref, c'est une comédie musicale qui est sortie, je pense, il y a 2-3 ans à peine. Et ça commence, c'est sur un pont. Et là, tout le monde sort de leur voiture et se met à chanter. Ça s'est arrêté là. J'ai fait ça. je peux pas. Je déteste les comédies musicales. Donc là,
il y en a quand même dans
Je m'attendais pas à ça. OK.
Oui, il y en a, mais c'est bon à savoir. Les chansons d'Elton John se prêtent tellement bien à ça. Et aussi, le film... Il se déroule et là, tu dis « Ah, c'est Elton John qui chantait cette chanson-là. » On découvre des hits comme j'étais avec les années. Puis je parlais des anachronismes. Ils ont fait le choix, le réalisateur fait le choix de ne pas mentionner de date nécessairement pour qu'on se dise « Ah, c'est pas en 1968 que la chanson est sortie. » Il y en a des anachronismes, mais les réalisateurs ont dit « Ben, c'est comme ça qu'on a choisi de raconter l'histoire et c'est ça qu'on va offrir aux spectateurs. » Et ça marche. Les seuls détails, ça va être des fois, il y a une boule disco pour montrer que c'est la
que
fin
c'est
des années 70.
C'est dans les années 70.
Les costumes, années 80, c'est très réussi, les costumes.
La La Land.
La La Land.
Merci, je cherchais avec mon Hollywood.
Hollywood, OK.
C'était pas clair, La La Land. La durée du film, c'est quoi?
C'est deux heures.
OK, donc c'est
un
bien.
Un peu plus que 2 heures. Et c'est drôle parce qu'en Russie, ils ont censuré des scènes parce qu'il y avait d'homosexualité, de drogue et tout ça. Mais c'est pas une grande partie du film. Je veux dire, c'est pas comme Motley Crue, là. C'est pas The Dirt. Là. The Dirt, si t'enlèves les scènes de drogue, du sexe...
Ça dure 10 minutes.
10 minutes environ. Mais Rocketman et la scène en question, c'est une scène de tendresse. Il y a pas rien de pornographique. Là. Je veux dire, c'est très...
Mais ça fait partie de Elton John en même temps. Si t'enlèves la drogue, si t'enlèves l'homosexualité... Non, mais ça fait partie du personnage. Oui. Il est ce qu'il est. J'ai bien de la misère quand on commence à couper des seins.
Ben, c'est ça. Puis le personnage est intéressant parce que dans les années 60, il était jeune. C'est un prodige. Commencé à jouer du piano à 5 ans. Je pense vraiment à l'oreille en entendant des mélodies comme ça qu'il reprenait. Et là, sa grand-mère a insisté pour qu'il prenne des cours parce qu'il avait un talent qu'il a suivi toute sa vie. Mais dans les années 60, il n'y avait rien d'un rocker. Il était un petit peu grassouillet. Il avait des lunettes, des grosses lunettes. Mais il s'est servi de ça, finalement, pour se donner un personnage extraverti. Lui qui était tellement gêné, tellement timide. Mais il s'est mis à faire de la scène. Et là, ça lui a permis d'exprimer tout ce qu'il avait de refoulé en lui. Et le film rend très bien ça, ce côté-là d'Elton John, cette dichotomie, ces deux côtés entre le côté plus pogné par en dedans et le côté, ben, je suis sur une scène.
Ouais.
Oui, c'est ça. Être plus à l'aise devant des milliers de personnes que one-on-one, juste avec une personne. Donc,
au niveau chronologique, on va jusqu'à quel âge environ? Est-ce qu'on a un clin d'œil à la princesse Diana? On sait que Elton John est le parrain exemple de Lady Gaga, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Donc, bref, est-ce qu'on voit les dernières années de...
On les voit au générique. On les voit très rapidement. Okay. Parce qu'en fait, l'histoire se termine un peu au début des années 90, où là, il décidera d'arrêter de consommer. C'est ce qu'on fait à la fin. On dit, pendant 20, il est sobre depuis 28 ans.
Quand même.
Et puis, on dit tout ce qu'il a fait, là, ses implications sociales et tout ça, qu'il a arrêté de... Parce qu'au début, on dit, il boit trop, il prend trop de drogue et il magasine trop. Et à la fin, il y a un petit clin d'œil. On dit, ben OK, il boit plus, il est sobre, mais il magasine encore beaucoup. Là. On voit des photos du vrai Elton John. Mm-hmm. Et on compare aussi des scènes de la vraie vie, là, ce qui est arrivé, avec ce que le film représentait. Et c'est assez méprendre. Là, vraiment, c'est un beau travail là, pour rendre ça le plus réaliste possible, même si la narration, elle, est plus éclatée.
Okay.
Donc, je recommande même les
Est-ce
gens
qu'on va
qui sont
voir
pas
ça
fans,
avec les enfants?
Quel âge t'as ton fils?
Un an. Fait qu'Albert comprend pas grand-chose, mais est-ce que c'est possible de faire cette sortie-là ce week-end avec des enfants de 10 ans, 11 ans? T'amènerais-tu tes enfants, toi, à le voir?
Ma fille. Ta fille. Oui, à 12 ans, oui. Oui.
OK.
Parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de la musique aussi, mais mon fils, je pense qu'il s'ennuierait un peu, justement, avec le format comédie musicale, peut-être. Mais... oui, mais en étant présent, là, je veux dire, en expliquant. Puis, mais il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de scènes de cocaïne, bien sûr, il a fait des problèmes, tout ça. Donc, puis là, il s'en sort à la fin. Donc, si
au moins, parent, il s'en sort.
Oui, il s'en sort, mais avec de l'aide, avec des interventions. Donc, c'est bon pour lui. Mais pour moi, Elton John, c'est un chanteur pop. Là, je voyais pas ça comme les Sex Pistols. Fait, je savais pas qu'il y avait eu tout ce côté-là dans la...
Il y a un côté sombre, hein?
Ben oui,
même,
à partir de 1975, sa santé a pris le bord, justement, parce qu'autant il avait une carrière, là, il collaborait avec il était multimillionnaire à 25 ans.
Ah, ça, c'est fatigant.
C'est fatigant, ça. Quand faut que tu vives avec ça. Mais, mais il savait plus où son argent. Ça, d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a des clichés de rockstar, mais ça a été sa vie pareil. Là. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, il fait de l'argent, mais il sait pas où ça va. Parce qu'il
genre
est mal...
de sex, drugs and piano.
Oui, c'est ça. Parce qu'il est mal conseillé. Il est très mal conseillé par ce qui a été son amant, qui va aussi être son producteur, son agent, qui va mettre de l'argent partout dans des choses. Ça lui échappait. Puis des fois, les artistes, c'est pas les meilleurs gestionnaires, puis ça prend quelqu'un. Mais à un moment donné, tu sais plus ce qui t'arrive. Et c'est un peu ça. On parle
il
un peu de ce côté-là aussi.
Là,
parce qu'il... Il y avait des maisons partout, puis il savait même plus, ça ne tentait plus d'avoir des grandes maisons en Californie. Il avait le goût de retourner parmi les siens. Mais non, il fallait qu'il fasse des spectacles et tout ça. Il était dépassé un petit peu. Donc, oui, tu as la fameuse scène.
Compréhensible également.
Puis il a cherché à mettre fin à sa vie aussi. Il avait pris une soixantaine de Valium, puis il s'est jeté dans la piscine pendant qu'il y avait un party chez lui. Un party que son agent avait organisé pour montrer son nouveau manoir. Et là, sa famille est arrivée d'Angleterre. Il n'avait aucune idée qu'il était invité. Et donc, il a fait
aïe,
un... Il a connu ça, c'est je dirais, le comme au milieu du film. Et c'est là que ça commence à déraper par la suite.
Il avait quel âge environ dans ce temps-là?
Fin vingtaine. Il va avoir 28 ans. Il est né en 47.
Le classique, hein, du 27, ouais, 28. Ça, on dirait avec les rockstars, il y a quelque chose qui se passe.
Puis, on avait misé beaucoup sur lui. Et ça a marché parce qu'en 70, les Américains ne le connaissaient pas et ils l'ont booké dans une salle, le Troubadour, à Los Angeles. Et ça aurait été un hit or miss, comme on dit. Mm-hmm. S'il n'avait pas réussi,
c'est un flop,
il aurait pu se planter et sa carrière s'arrêtait là. Mais ça a très bien fonctionné. C'était un showman...
hors pair.
Hors pair, puis même au piano, ce qui n'est pas évident. Souvent, c'est pas comme une guitare où on se déhanche.
Non, t'es caché au piano, là, oui. On s'entend. Là, ben, c'est massif, un piano, c'est immense. Là. Souvent, on voit la personne, la tête, les épaules.
Ben, c'est ça. C'est... Et lui, il faisait mettre de côté, comme Jerry Lewis, mm-hmm. puis il se donnait... Voilà, donc...
allez voir ça.
Allez voir Man. Ça. Mais je parlais justement de sa fortune.
Ben oui, de milliardaire, millionnaire.
Il, il y a 500... Oui, il était multimillionnaire à 25 ans, mais sa fortune actuelle est estimée à 500 millions.
Bon.
Hein, fait que c'est quand même pas si pire. Je pense pas qu'il rate des paiements sur son char, mais...
Encore drôle!
Bon, des fois, c'est une distraction comme ça. Mais ce qui m'amène à parler de notre ami Jay-Z. Hein, mm-hmm. Jay-Z, on peut peut-être me faire jouer un petit extrait ami? D'ailleurs... They say I'm crazy, but I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other Benz. Last week I was in my other Benz. Throw your diamonds up, cause we in this bitch another again. Photo shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi.
Jay-Z, le mari de Beyoncé.
Oui, qui a joint le club des milliardaires cette semaine. C'est le magazine Forbes qui a publié ça comme quoi... Et c'était des chiffres conservateurs. On dit milliardaire, mais probablement qu'il y en a un peu plus. On estime sa fortune à un milliard. Parce que...
Il rentre à quel âge? Aux alentours de 50, Jay-Z.
Ah, il doit pas être loin de... Ça, je connais plus sa fortune que son âge.
Il est aux alentours de 50, si je me trompe pas. Et c'est fou, hein? Kylie Jenner, elle aussi est entrée dans le club des milliardaires. Et elle a peut-être, quoi, 25 ans? C'est...
Ah, j'ai raté ma chance. Ça va être 5.
T'as raté ta chance. 49 ans, Jay-Z, on me confirme.
49 ans. Ah, oh, milliardaire. Bon, il me reste une couple d'années.
Une belle cinquantaine, ça.
Oui, oui. Avec mon compte épargne un peu chaque mois, je vais y arriver. Mais ben, c'est ça, Jay-Z qui... Ben, dans le rap, maintenant, c'est la nouvelle vache à lait de l'industrie mm-hmm. musicale. C'est vraiment ceux qui font le plus d'argent. Ben, Sean Combs, Puff Daddy, 855 millions. Donc, dans quelques semaines, je vais venir t'en parler comme quoi il est milliardaire.
Mais Dr. Dre aussi, là, voilà. Il a vendu... Comment ça s'appelait? Là? Il a vendu un truc qui l'a rendu millionnaire.
Ben, il y avait ses écouteurs. Oui, je cherche le nom du modèle.
Beats. Hey, merci. Beats. Hein? Là, ça, c'est tout en régie, Alex, qui nous dit ça. Donc, Beats. Et ça l'a rendu, si je ne me trompe pas, milliardaire, Dr. Dre. Là.
Ben, Dr. Dre... T'en parles, mais c'est lui le troisième plus riche dans le rap. Justement, j'allais le mentionner, 820 millions. Quand même.
Il y a de l'argent à faire, là.
Oui, oui, il y a de l'argent à faire, mais.
Stéphane, on se part un verre.
On va essayer ça. L'important, c'est de diversifier son portefeuille, comme diraient les conseillers fiscaux, financiers, parce que c'est Jay-Z, c'est pas juste de la musique.
Là, non, du tout, c'est un brand à lui, là.
Voilà, et il a investi même dans l'immobilier luxueux, bien sûr, mm-hmm. des chaînes d'hôtels, dans l'alcool aussi, toutes sortes de spiritueux qui portent son nom. Et.
Ah, il y a des spiritueux qui portent le nom de Jay-Z.
Ou bien il est propriétaire quelque okay. part, là, tu sais, il a laissé sa griffe là-dessus. Et également, les objets d'art, il est collectionneur d'art contemporain, donc c'est un investissement. Il va acheter un tableau très cher, mais parce que c'est Jay-Z qui l'a acheté, il peut le revendre encore plus cher. Donc, la musique est...
D'où, comment tu me dis, Alex? Doucy, c'est Doucy. Une liqueur de Jay-Z. J'ai jamais entendu parler de ça de ma sainte vie.
Je vais ramener ça la semaine prochaine si je la trouve. Ça va être sûrement en ligne, peut-être pas à SAQ, là, mais bon. Et Jay-Z, ben, c'est ça. La musique, c'est une part infime de sa fortune là, parce qu'il a tellement investi dans un paquet de secteurs. Et même Warren Buffett, le fameux milliardaire américain, l'avait rencontré il y a 10 ans puis il avait dit... Ce jeune homme va réussir, va être milliardaire aussi parce qu'il est business-wise.
Mais il est reconnu pour être business-wise. Et tu sais, il ne veut pas aussi les tourner. Il n'y a pas si longtemps avec Beyoncé, ils ont eu une des tournées les plus lucratives également de l'année. Fait que, en tout cas, l'argent coule à flot.
Ouais, parce que
dans ce couple-là.
On se dit toujours, OK, on vend plus d'albums, qu'est-ce qui se passe, comment les artistes font de l'argent.
C'est les tournées, c'est les produits
dérivés. Ben, c'est ça, voilà. C'est
un peu à la Kanye West avec Yeezy, justement, tu sais, ses vêtements, là, ça marche au bout, là, avec Kim Kardashian en plus qui les porte. Et ça fonctionne, là, il fait de l'argent avec ça comme de l'eau. Là.
Puis quand ils font de l'argent, soit ils vont réinvestir ailleurs pour avoir des assises financières pour si jamais ça marche plus, s'ils n'enregistrent plus, ben au moins il y a des sources de revenus ailleurs et Jay-Z a très bien compris ça. Je suis pas inquiet pour lui. Mais le top 20 est sorti justement des rockstars les plus riches. Il y avait Robbie Williams en 20e, 300. Ben, je dis 20e, mais il y en a qui ont 300 millions de fortune. Il y en a quelques-uns. Robbie Williams, James Hetfield de Metallica.
Ah ouais, mais ben, j'ai pas de misère à te croire. Gene Simmons, est-ce qu'il est là-dedans?
Oui, là-dedans.
Lui, c'en est un aussi, là, avec des produits dérivés et tout ça. Là.
Et c'est le seul de Kiss. Le seul membre de Kiss qui est dans le top 20. Gene Simmons, sa fortune est à 350 millions de dollars US.
Quand même.
Parce que les années de fête de Kiss, tout ça, le party, c'est derrière eux, mais maintenant, sont sérieux, ces messieurs-là.
Ils sont très sérieux.
Malgré leur maquillage et tout, leur habit de scène, ben, ça fait partie de leur branding et ils prennent ça à cœur. Ils ont même fait une pub pour Walmart il y a quelques années.
Ça n'a pas dû passer.
C'était. Ça faisait rire d'eux, mais en même temps, on en parlait. Et là, mais il y a un bon sens de l'humour quand même. Là. Ils ne se parlent plus entre eux, mais ils continuent à faire des projets lucratifs comme ça, parce que Kiss, ce n'est pas le groupe qui pratique le plus. Là, ils font des spectacles encore, mais ils misent beaucoup, beaucoup sur les produits dérivés.
Surtout les produits dérivés.
Il y a Eric Clapton.
Je ne peux pas m'arrêter de croire non plus.
Au 18e rang. 300 millions, comme Dave Matthews. Ça m'a étonné. Dave Matthews.
Ouais,
Dave Matthews Band. 300 millions.
Est-ce que Neil Young est là-dedans?
Non. Non, je vais peut-être y prêter un peu d'argent s'il veut. Non, Neil Young, mais il vit quand même assez bien, mais il n'est pas dans le top 20. Il y a le guitariste, auteur, compositeur d'ABBA, Björn Ulvaeus.
Dis-moi donc ça.
Björn Ulvaeus, excusez-moi, mon suédois n'est peut-être pas à point. Du groupe ABBA, okay. 300 millions lui aussi, qui se trouve dans le top 20, parce que les chansons d'ABBA ont tellement joué, et lui les a pratiquement composées au complet. Puis je pense qu'il était bien conseillé aussi, parce que des fois, on écrit des chansons, on accepte, on signe des mauvais contrats, mm-hmm. et les chansons ne nous appartiennent plus, mais je pense que Björn a bien suivi sa leçon.
Les membres de Pink Floyd, j'imagine Roger Waters, il doit être là-dedans.
Voilà, 310 millions.
Hey, Roger Waters,
c'est très bon, c'est très bon. Et Roger Waters, il a vendu 250 millions d'albums dans sa vie avec Pink Floyd et il écrivait The Wall, l'album The Wall de Pink Floyd, c'est Roger Waters.
Ben oui, absolument. Là, c'est...
Donc, il vit très bien. U2, c'est drôle parce qu'ils ont
Bono, il doit être là-dedans.
Bono est dans le top 5. Mais Adam Clayton, fortune de 300 millions lui aussi, c'est le bassiste. The Edge, aussi une fortune de 340 millions. Mais le batteur n'y est pas. Alors, je sais
ça, c'est
pas.
Chiant.
Larry Mullins Jr., c'est le seul. C'est le batteur qui n'a pas de reconnaissance. C'est peut-être parce qu'il n'a pas écrit de chanson. Faudrait vérifier, tomber sur une bonne biographie.
Mais tu sais, honnêtement, c'est sûr qu'on prendrait tous quand même son compte en banque. Là.
Je
pas
pense
parce que tu
aussi.
Fais pas partie des 20
Exactement.
Plus riches que, t'es,
non.
que tu fais pitié. Est-ce que Paul McCartney est là-dedans?
C'est le premier.
Oh!
Paul McCartney, il est même plus loin que Jay-Z. C'est 1 milliard 200 millions.
Sir Paul.
Sir Paul. Et Ringo Starr aussi, mais okay. 350 millions. Mais Ringo n'avait pas écrit autant de chansons.
Non. Paul, c'est Paul.
Puis Paul...
J'aime ça dire ça.
Sir Paul. Ce qui l'a aidé, je pense, c'est les droits des chansons des Beatles, ils ont eu gain de cause. Parce que au début d'iTunes, il n'y avait plus les droits. Puis il a pu récupérer beaucoup d'argent quand ils ont récupéré les droits des chansons des Beatles. Donc là, on parle quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons qui jouent mm-hmm. et rejouent dans des films.
C'est sûr. Donc, OK, puis là, avant de te laisser aller, Stéphane, est-ce qu'il y a un membre des Stones? Merci de chercher.
Oui, Mick Jagger et Keith Richards, les deux. Mick Jagger, 360 millions. Keith Richards, il suit à 340 millions. Donc, et ils repartent en tournée cette année, donc j'imagine qu'il y avait besoin de plus encore.
Hey, hein, y a de la pauvreté dans le monde, il y a du monde qui ont faim. Et
oui,
là, puis si on compile toute cette belle fortune-là... Là,
écoute, c'est plus gros que le PIB de bien des pays.
Pas loin de la Basilique Notre-Dame.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il y a Sting, bien sûr, aussi, mais c'est un petit survol.
Est-ce qu'il y a des femmes, là? Je t'ai pas posé la question, Crimbin.
Non, c'est encore...
Zéro.
C'est encore. Ben, il y a des femmes qui. Dans la musique qui font beaucoup d'argent, mais ne sont pas dans le top 20. C'est encore un boys club. Hein?
Mais oui, je le sais.
Il y a le plafond de verre, c'est pas.
Il n'a pas encore été.
Mais il y a quand même des interprètes. Beyoncé, justement, se retrouve quand même dans les interprètes qui gagnent le plus d'argent, mais c'est encore très masculin.
C'est très, ouais.
Oui. Bon. Oui. Parce surtout que c'est des vieux groupes, pour la plupart, comme Elton John qui est là-dedans dans le top 20 aussi, mais il fait carrière depuis la fin des années 60.
Oui, il n'y a pas de Justin Bieber et Olivier Dion là-dedans. Là.
Non, c'est ça. Oh, Olivier Dion, je vais regarder. Non, okay.
Hey, merci beaucoup, Stéphane.
Ben, merci à toi.
Mère ordinaire.
Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Là, je vous rappelle que vous pouvez toujours réentendre en émission sur l'application de Cube Radio. Ça paraît pas, mais l'été s'en vient et on commence évidemment à penser à l'aménagement extérieur de la maison. Je suis en compagnie de Émilie Ceretti, qui est designer intérieur-extérieur. On t'a vu à l'émission Ouvrez, on sait jamais, et tous pour un chalet. Bienvenue à Mère ordinaire.
Merci.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, il fait beau.
Mais oui, enfin!
C'est pour ça qu'il faut jaser déco extérieur un peu parce que ça s'en vient.
Mais là, c'est ça. Moi, habituellement, là, je l'ai fait aux alentours du début mois de mai.
Oui.
Dans le meilleur des mondes. Ça m'a fait beau à cette année. Mais là, écoute, il y a encore eu de la neige à Val-d'Or il y a quelques jours à peine.
C'est incroyable.
C'est incroyable. L'école pour les enfants termine dans 3 semaines et ça paraît... As-tu des enfants, toi?
J'ai des enfants, mais je dois t'avouer que hier matin, j'ai allumé mon siège chauffant.
Non, ça, c'est...
Faut pas le dire, je le sais, mais j'ai...
Ça se peut pas, hein?
C'est incroyable. Au mois de juin, là, c'est du jamais vu, puis c'est comme le sujet de l'heure, là, on va se le dire.
Non, mais c'est parce que la piscine, tu sais, oui. Les enfants, habituellement, les sorties aussi de fin d'année.
Ben oui.
On va aller à la piscine, on va aller à la ronde, tu sais, on est-tu loin de ça?
L'eau doit être
frette. Tu me verras pas me baigner tout de suite, je peux te le garantir.
Ça, c'est sûr.
À moins que l'eau soit justement réchauffée, la piscine soit chauffée. Alors là, si on a envie de commencer quand même à aménager la cour, on commence par quoi? Dis-moi, là, j'ai aucune idée comment ça marche.
On commence par... En fait, aménager une cour extérieure, mm-hmm. c'est exactement la même chose qu'une pièce intérieure. Fait que de plus en plus, les gens vont apporter beaucoup, beaucoup d'attention. Fait qu'on commence par faire une liste de qu'est-ce qu'on veut faire de notre cour. Est-ce qu'on veut recevoir? Est-ce qu'on cuisine beaucoup?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on a des enfants puis on veut leur faire un espace de jeu? Est-ce qu'on veut un espace plus détente, un coin lecture? Est-ce qu'il y a un spa, une piscine? Fait que, tu sais, tout ça devient des zones différentes puis il faut que tout ça... soit bien coordonné là, pour que mm-hmm. ça vive bien. Il faut penser à couvrir un espace parce que pour le peu de temps qu'on a de belles journées ici, là, ça dure pas longtemps. On veut en profiter le plus possible. Alors, ça vaut la peine de penser à couvrir.
D'avoir un gazebo ou un truc comme
pour fermer.
Pouvoir souper le soir, c'est quelques petites gouttelettes, au moins, on peut quand même passer parce qu'on s'entend que le patio en soi, c'est une pièce additionnelle.
C'est une extension de la maison.
C'est une extension.
Quand c'est bien aménagé, c'est vraiment ça le terme. Là. C'est une extension de la maison parce que c'est pas rare qu'on fait d'une cour un autre salon, une autre salle à manger, une autre cuisine, puis une cuisine très équipée, là, des fois.
Oui, le barbecue des hommes, là, moi, mon chum, son barbecue, là, je dis pas, là.
C'est ça,
c'est de l'art en barre, là.
Mais des fois, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. On a des frigos extérieurs maintenant, on va jusqu'à mettre un évier, tu sais, fait que c'est tout ça sont des coûts. Il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup de sous dans leur cour. Alors, faut que ce soit bien pensé pour pas le regretter.
Combien on doit débourser, là, c'est la grosse mode. En plus, c'est sûr, avec les Instagram de ce monde. Mm-hmm. Maintenant, on veut montrer justement notre aménagement extérieur. Si on veut acheter un beau sofa pour passer des belles soirées dans un lounge, mm-hmm. combien que ça coûte en général? T'sais, pour que ce soit confortable, mais non plus, je pense qu'on ne veut pas dépenser 10 000.
Mais ça peut...
Combien qu'on doit...
C'est dur à dire un montant, un chiffre exact parce qu'il y a tellement de qualités différentes. Hein. T'sais, je pense que pour l'extérieur, ça vaut quand même la peine d'aller avec une belle qualité. Parce que, justement, c'est de l'extérieur. Donc, il y a des intempéries. Mm-hmm. On veut des tissus qui résistent à la pluie parce que il n'y a rien de plus tannant que... On a des enfants, on a des vies occupées. Fait qu'on n'a pas le temps de commencer à ramasser là,
à
tous
chaque
les...
fois qu'il pleut, entrer tout à l'intérieur.
Non, ça, on veut pas ça. Fait que ça vaut la peine de débourser un petit peu plus pour avoir une belle qualité là, qui va rester beau
mais
longtemps.
C'est bon que tu le dises parce que c'est vrai en même temps, des fois, on se dit, c'est dehors, c'est une saison. Deux, trois mois, on va payer un peu moins cher, mais finalement, on se retrouve à constamment, comme tu dis, entrer tous les matelas, sofas, les coussins. Là, s'il y a du vin qui tombe, ça te frotter, ça part pas. Fait que j'avoue que des fois, on se dit, ça coûte un peu plus cher, mais je vais pouvoir le garder.
Exact.
2 ans, 3 ans, 4 ans, puis on prend quelque chose d'un peu plus intemporel, mettons,
exactement.
Plus moderne, plus classique.
Il y a tellement du beau mobilier extérieur maintenant, là. C'est incroyable. Là. C'est du mobilier que tu pourrais même pas savoir que c'est fait pour l'extérieur, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. Ça vaut la peine. T'sais.
C'est quoi la tendance cette année? Est-ce qu'une J'imagine qu'une tendance quelconque.
Ben écoute, c'est
les
sûr que
les couleurs et tout ça, tu sais, souvent chaque année là, il y a la couleur de l'année qu'on nous propose là. C'est quoi là cette année si je veux avoir quelque chose à être in?
Ben je te dirais que la tendance est au neutre comme base. Tu sais, je te dirais comme un sectionnel par exemple, un mm-hmm. divan sectionnel là qui pourrait être dans des tons plus unis là, des ivoires ou des gris ou noirs par exemple. Puis là que tu viens comme rehausser avec des coussins là vraiment colorés, des motifs. On va oser mélanger les motifs pour aller chercher un petit look un peu boho, c'est beau. Un peu rustique, tu sais, mélangé avec, par exemple, des tapis de coco, des paniers, tu sais, mm-hmm. le côté très naturel aussi, mélangé à tout ça. Fait qu'il faut vraiment oser le mélange un peu des couleurs, mais il faut y aller de bon goût, évidemment, là, parce qu'on veut que ça dure longtemps et que ce soit
beau.
Mais
là, c'est
longtemps.
Ça, tout ce qui est flamant rose, tu sais, l'an passé, ça fait deux ans, si je me... Non, mais tu sais, il y en avait, là, du flamant rose, les ananas, là, j'ai vu des cactus. Je pense que c'est cette année.
Ça, faut faire attention.
Ouais, ça, on dose ça comment? Parce que moi, Mané, il y en avait par les coussins. Là, tu disais que je vais acheter un coussin, c'est beau. Ouais. Là, après ça, les verres, là, tu te retrouves finalement parce que ta cour est kitsch.
Oui, puis tu veux pas, faut éviter ça. Faut éviter.
Ça coûte cher aussi, parce que l'année d'après, c'est plus tendance.
Exactement.
Fait que là, ton filament se retrouve dans le garage, tu sais.
Avant de te garage.
Et voilà.
Mais il faut faire attention parce que c'est facile de tomber dans le panneau des kits. Tu sais, c'est ça. Comme tu dis, les kits, là, la petite carpette, le coussin. Fait que, tu sais, si on a un trip flamant rose ou ananas, ben je pense que tu peux te permettre un élément. Tu sais, juste un
mais
petit clin d'œil.
Mais pas tapisser ta
courde. Ben non, c'est ça. Tu sais, vas-y neutre, là. Vas-y safe, là, parce que...
Tu penses quoi, toi, des télévisions extérieures? Moi, j'en vois de plus en plus. J'ai comme une relation à mon range. En fait, je la comprends pas tant que ça.
Ouais.
Toi, penses, c'est-tu quelque chose de hot?
Ben écoute,
t'es parti de la galerie si t'as une télé à l'extérieur.
Ben écoute, il faut vraiment être accro à la télé pour avoir une télé extérieure. Tu sais, ça, c'est quand t'as vraiment des sous de trop.
Oh, donne-moi ça.
Tu sais, c'est quelque chose qui peut être le fun, on dirait, pour une soirée familiale, un film extérieur. Tu sais, ça, c'est des soirées qui peuvent être intéressantes. Mais tu sais, de là à avoir une télé extérieure pour tous les jours, moi, personnellement, moi, je trouve ça un petit peu exagéré. Je suis pas non plus, je suis comme toi, je suis pas rendue là encore.
Non, du tout. OK, non. Les couleurs tendances, est-ce que tu le sais? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? On est dans le turquoise?
Ben le turquoise, ça revient souvent
ça revient
l'été. Oui, les turquoises, les jaunes. C'est
j'ai vu beaucoup de lilas mauve. Est-ce que c'est tendance cette année? J'en ai vu un peu au Home Sense.
Oui, il y en a.
Le pastel, hein?
Oui, les pastels aussi. Toutes les couleurs, là, un peu soleil. C'est ça, les turquoises, mais aussi émeraudes. Tu sais, des turquoises très foncées.
Ah, c'est beau,
des
ça, c'est
bleus,
vrai que c'est revenu, cette
marine,
couleur-là.
Oui, c'est toutes les couleurs qui ressemblent aussi. Tu sais, il y a comme la catégorie des pastels, puis il y a la catégorie des couleurs plus foncées, comme les pierres précieuses, là, tu sais,
okay.
Les rouilles. Ça, c'est...
C'est beau.
C'est beau. Il y a un retour aux rouilles qui est vraiment, vraiment beau, là, je trouve, même pour l'automne, quand on pense à une cour extérieure, qu'on veut profiter même tard l'automne, tu sais, tu rajoutes des jetées, tu rajoutes tout ce que ça prend, là, pour être confortable puis bien au chaud. Ça prend un foyer, hein, un must. Ça prend un foyer extérieur.
Un foyer?
Ouais.
Mais là,
c'est beaucoup plus qu'une télé.
Mais, s'il vous plaît. Là, je te demande ça parce que j'ai quand même vu passer beaucoup d'images avec la télé, puis on dirait que je suis pas certaine, c'est ça. Fait que je voulais avoir ton opinion à ce niveau-là. Mais là, les foyers, parce que des villes aussi où on n'a pas le droit d'avoir le foyer, sinon on achète les fameuses bûches comme à Longueuil. Là, c'est comme les une sorte de bûche que tu peux utiliser. Donc là, il faut quand même s'informer.
Oui,
faut que la police finisse pas la maison le samedi soir quand on fait un feu. Là.
Exact. Non, ça prend, dans presque toutes les villes, ça prend un foyer qui est couvert, là, qui a un grillage, ça, c'est sûr, pour que ce soit sécuritaire. Mais je trouve que le foyer...
Il y a quelque chose!
Ah oui, ça, c'est... Ouais, pour les belles soirées, là, ça met de l'ambiance.
Ça change tout, hein? On se fait un petit feu? Merci, bonsoir. Non, mais juste ça, autant qu'une piscine.
Ah, oui.
La piscine en soi, c'est une activité. Le foyer, c'est une activité en soi.
Oui, exact.
Ouais.
Puis l'éclairage, hein, faut pas négliger l'éclairage, les petites lumières, tu sais, on se crée de l'ambiance.
Mais
là,
oui, on tamise, là, s'il vous plaît.
On tamise, puis on s'organise ça le fun, tu sais, puis ça n'a pas besoin de coûter tout le temps cher, hein, les petites lumières d'extérieur, comme on voit sur les terrasses, là, des restaurants, par exemple, suspendues dans le.
Ça, c'est environ 60 $. Il y en a même des moins chers,
donc.
Mais tu sais, 60, si tu gardes ça 2-3 ans, puis ça te fait une belle ambiance, c'est pas.
Ça vaut la peine.
C'est dispendieux non plus.
Ça vaut la peine.
Ça vaut vraiment la peine.
Oui. Puis ça crée vraiment une belle ambiance. Vraiment, vraiment.
Oh my God. Et là, tu me dis ça, là. Mais non, c'est vrai, parce qu'il n'y a rien de pire que la fameuse lumière à côté de la porte patio à Maringouin. Là.
Ah non, ça, non.
Tu sais de quoi je parle, on ne veut pas ça.
Le luminaire mural, là. Oui, c'est vrai. Hein? Puis là, tu l'étoile d'araignée, puis...
Chauffe-terrasse, est-ce que ça vaut la peine?
Ça vaut la peine,
c'est cher, ça? Ça ressemble à quoi? J'ai aucune idée.
Ben c'est environ 1000, tu sais.
OK, quand même.
Environ 1000 $, mais je trouve que ça... Il y en a des moins chers aussi. Là, quand on tombe en sol, ça vaut la peine. Parce que quand on soupe dehors, là, souvent, quand il n'y a plus de soleil, bien, c'est là que l'humidité tombe. On a plus froid. Mm-hmm. Donc, il faut se rendre ça confortable quand même. Mais moi, je suis douillette. Là. Moi, c'est le genre d'affaires que je...
Mais c'est le fun.
Que j'aurais. Là,
Et pour terminer, dis-moi donc, les boutiques, tes boutiques coup de cœur...
Pour l'extérieur?
Pour l'extérieur.
Eh,
ça peut être les vêtements aussi, hein, si tu veux.
Oh, mais bon, vu qu'on parle de l'extérieur, on va y aller avec l'extérieur.
Mais l'extérieur, on va où? Parce que, tu sais, il y a le IKEA. Mais en même temps, on ne veut pas nécessairement avoir les mêmes coussins que son voisin. Moi, je connais le Home Sense, mais je te dirais que, tu sais, je vais souvent à Boucherville, là, si vous connaissez. C'est pas mal les deux boutiques.
Ouais.
Mais il y en a plein d'autres.
Ben, c'est un mélange de tout ça. T'sais, oui, pour du bon marché, IKEA, ça va faire le travail. Avec des coussins de chez Home Sense, c'est sûr que pour les coussins, Home Sense, c'est la place.
C'est hot.
Après ça, dans mes coups de cœur, il y a aussi Lounge Factory, parce que Lounge Factory, ils font du beau mobilier extérieur. Ils sont spécialisés là-dedans.
C'est une boutique, Lounge Factory, il y en a plusieurs.
C'est un distributeur. C'est un distributeur. Non, mais c'est un distributeur, puis on a accès, là, nous, les designers, fait qu'on on a accès à tout ce qu'ils ont. Mais ils ont vraiment des trucs intéressants, comme des tables qui s'agrandissent, des panneaux qui sont intégrés, comme des tables d'intérieur, mais qui sont vraiment conçues pour l'extérieur. Et c'est de qualité. Fait que c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est un petit, c'est sûr qu'on n'est pas dans des budgets. Non, c'est ça. C'est pas le budget IKEA, évidemment. Mais, tu sais, quelqu'un qui veut investir dans quelque chose de beau et de bien, ben, c'est la place.
Est-ce que t'en as deux, trois autres que tu peux nous dire?
Tu
sais, les Bouclair de ce monde.
Bouclair, c'est intéressant pour des fois des petits accessoires déco.
OK.
Coussins, des petites lanternes, des trucs comme ça. Ça, c'est j'appelle ça mon saisonnier, là. Tu sais, dans le sens que ça, tu te payes la traite, là. Puis si t'as un trip turquoise, tu vas là.
Tu y vas all-in.
Là, c'est ça. Tu t'achètes. Attention de ne pas tomber dans le petit kit, évidemment. Puis l'année prochaine, si t'es tanné du turquoise, ben, tu peux rajouter une petite touche de corail. Puis, tu sais, ça te coûte pas trop cher, là, à chaque année.
Au niveau de la vaisselle, parce que les coupes, surtout, on veut pas avoir de la vaisselle en vitre. Il y a rien de pire qu'une coupe qui éclate au sol. Les enfants, si vous avez des animaux, tu veux pas que ton chien se retrouve avec la vitre. Il y a HomeSense, je trouve, qui ont quand même de la belle vaisselle. Souvent, par contre, tu sais, boire déjà dans un verre en plastique, c'est un peu plus plate, un bon verre de vin. En plus, souvent, c'est très épais, je trouve, les plastiques.
Ça enlève
le feeling du bon vin. Mais je pense que HomeSense, selon moi, c'est une des meilleures places où s'acheter justement là, de la belle vaisselle.
C'est la meilleure place. C'est la meilleure place. C'est comme l'adresse coup de cœur, là, tu sais. Ouais, pour la vaisselle, là, tout ce qui touche la cuisine, autant intérieure qu'extérieure, c'est la place.
Et pour un coin enfant, dis-moi, on fait un carré de sable?
Bien, ça peut être un carré de sable, mais tu sais, il faut faire attention. Les chats aiment beaucoup ça, les carrés de sable aussi. Mais tu sais, il faut penser à couvrir le carré de sable. Sinon, la petite maisonnette, c'est le fun. Tu sais, ça prend quelque chose d'évolutif parce qu'encore là, c'est une question de budget. On peut y mettre le paquet puis faire quelque chose de vraiment intéressant, mais une petite maison, un petit coin, tu sais, un petit coin hamac, un petit coin détente.
Comme IKEA, entre autres, a de plus en plus de meubles pour les enfants. Tu sais, la belle petite table extérieure pour enfants, les petites chaises. Moi, j'ai acheté à Albert un mini sofa, tu sais, pour qu'on puisse être avec nous comme dans la gang. Tu sais, il n'est pas juste à la table des enfants.
Non, c'est ça.
Donc, c'est vraiment l'usée d'imagination.
On peut même faire des tableaux pour dessiner dehors aussi. Ah. La peinture à la craie, là, tu sais, les enfants peuvent dessiner. Des trucs pour grimper, tu sais, quand c'est des enfants plus actifs, faut penser à tout ça aussi, là. Fait que c'est important de leur faire un petit coin.
Hey, on fait ça en espérant que l'été arrive.
On se croise les doigts.
Merci beaucoup, ma chère. Donc, emilyceretti.com pour avoir tous les détails. On peut te suivre, évidemment. Je veux dire un beau merci à Alex à la recherche qui a été d'une grande aide aujourd'hui, qui m'a donné quelques réponses à l'oreille. Joanne et Henry également à la mise en onde. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite à tous une super belle journée. Bye bye.
Cube Radio.